avec Alliance Vita au service des plus fragiles.
Chers auditeurs, il y a quelques semaines, la dirigeante politique Marine Tondelier annonçait publiquement sa grossesse, qualifiée de miraculeuse, après une fausse couche et un parcours douloureux de PMA. Dans un entretien accordé au magazine Elle, elle témoignait de sa souffrance tout en s'interrogeant sur la possibilité en France, comme c'est déjà le cas dans d'autres pays, d'élargir le cadre législatif des analyses qui sont réalisées sur les embryons avant leur implantation lors d'une PMA. Dans le contexte d'états généraux de la bioéthique, cette question relance le débat sur ce qu'on appelle le DPI et pourrait aboutir à mettre ce sujet dans la prochaine révision des lois de bioéthique. Mais de quoi parle-t-on exactement ? En France, le diagnostic préimplantatoire, appelé donc le DPI, existe déjà. Mais il n'est autorisé qu'à titre exceptionnel dans un cadre très précis. Il concerne les couples qui présentent un risque élevé de transmettre à leur enfant une maladie génétique grave et incurable. Le diagnostic ne peut être utilisé que pour vérifier la présence ou l'absence de la maladie concernée. Ce qui est en débat aujourd'hui, c'est l'élargissement du DPI à tous les couples en parcours de FIV et surtout l'autorisation de ce qu'on appelle le DPIA. Le A, c'est pour aneuploïdie, c'est-à-dire la recherche d'anomalies dans le nombre des chromosomes des embryons. Ces anomalies ne sont pas des maladies héréditaires, c'est le cas par exemple de la trisomie. L'idée serait donc de sélectionner, avant implantation, en absence de tout risque identifié, les embryons jugés les plus viables pour augmenter les chances de grossesse et réduire les risques de fausse couche. Mais quelle est la réalité ? Alors j'ai envie de donner la parole à un spécialiste, c'est le docteur Stéphane Viville, il est responsable de l'unité génétique de l'infertilité des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Dans différents articles parus récemment dans Le Monde ou Le Figaro, il met en garde contre ces fausses promesses. Je le cite, « Sur le papier, le concept est très bon, il s'agit de tester l'embryon pour voir s'il n'y a pas d'anomalie chromosomique. Mais en réalité, cela n'améliore pas le taux de grossesse. La majorité des fausses couches ne sont pas dues à des anomalies chromosomiques. » Et sur l'efficacité des FIV, il rajoute que si cette technique existe depuis 1993, en 27 ans, elle n'a jamais prouvé qu'elle apportait quoi que ce soit. En FIV, entre une femme à qui on fait un DPIA et une autre à qui on n'en fait pas, on ne constate aucune différence, si ce n'est pour son compte en banque, évidemment. D'ailleurs, aux États-Unis, où le DPIA est libéralisé, c'est devenu un vrai marché lucratif, avec à la clé des plaintes déposées contre plusieurs sociétés pour publicité mensongère. Et il y a un autre problème, plus technique et plus fondamental, c'est que le DPIA n'est pas infaillible. Le diagnostic se pratique au tout premier stade du développement embryonnaire, sur un prélèvement de quelques cellules seulement. Or, ces cellules ne sont pas nécessairement représentatives de l'ensemble de l'embryon. Il existe un phénomène bien documenté maintenant qu'on appelle le mosaïcisme. Dans un même embryon, certaines cellules peuvent présenter des anomalies chromosomiques tandis que d'autres sont parfaitement normales. Ce mosaïcisme serait donc une caractéristique courante du développement humain précoce. Le diagnostic peut donc se tromper. Des faux positifs conduisent à écarter des embryons qui auraient donné naissance à des enfants en parfaite santé et des faux négatifs, à l'inverse, laissent passer des embryons porteurs d'anomalies. Les études à ce sujet sont parlantes. Une recherche italienne publiée en 2015 a suivi des femmes pour lesquelles aucun embryon « normal » entre guillemets n'était disponible. Celles qui ont librement choisi d'implanter malgré tout leurs embryons ont pour la moitié démarré une grossesse. Et tous les fœtus contrôlés présentaient un caryotype tout à fait normal. D'autres études parues en 2024 confirment que les enfants nés d'embryons dits mosaïques se portent aussi bien jusqu'à 3 ans que ceux issus d'embryons classés chromosomiquement normaux. Et puis il y a cette réalité biologique fascinante que la science commence seulement à mieux comprendre, c'est que les embryons ont une certaine capacité à s'auto-réparer. Par exemple, les cellules défectueuses entrent parfois en apoptose, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la mort cellulaire programmée, et donc ne se multiplient pas. Les cellules anormales sont aussi parfois dirigées vers un développement qui les conduit à devenir des annexes embryonnaires comme le placenta, et non l'embryon lui-même. Enfin, il y a des mécanismes de correction du nombre de chromosomes qui sont aussi décrits. Ainsi, au cours du développement, la présence de cellules aneuploïdes, donc avec un nombre anormal, peut se réduire naturellement. La nature n'est vraiment pas sans ressources. Enfin, au-delà de la question médicale, il y a une question de société qu'il faut à tout prix considérer. Élargir le DPIA, c'est franchir un seuil. Ce n'est plus traiter une maladie identifiée, prévenir un risque connu, c'est instituer le contrôle systématique des embryons comme une norme. C'est dire au fond que la procréation passe désormais par un tamis génétique. Les conséquences méritent d'être pesées. Pour les parents d'abord, entretenir l'idée d'un bébé zéro défaut est une promesse dangereuse. Que se passe-t-il si malgré la sélection, un enfant naît avec un handicap, une maladie ? La sélection génétique conditionne une posture, modifie le regard, transforme la relation à l'enfant à naître. Conséquence pour les enfants ensuite, grandir en sachant qu'on a passé un tri génétique pour avoir le droit de naître, ce n'est pas anodin pour la construction de soi. Conséquence enfin pour la société dans son ensemble, une société qui se ferme à la vulnérabilité, caractère pourtant inhérent à toute vie humaine, perd quelque chose d'essentiel. Si les politiques de santé publique associent technologie et argent public pour empêcher que certaines vies ne voient le jour, quels effets cela produira-t-il sur notre capacité collective à accueillir les personnes handicapées, à soutenir les aidants, à inclure ceux qui sont différents ? Il y a un an, la ministre Agnès Buzyn avait elle-même mis en garde contre une société qui trierait les embryons, anticipant que tous les couples pourraient finir par se sentir obligés de passer par la FIV pour accéder au diagnostic génétique. Alors oui, la souffrance des couples en parcours PMA est réelle. Oui, la recherche doit progresser pour améliorer la prise en charge de l'infertilité et des fausses couches à répétition. Mais la réponse à cette souffrance ne peut pas être une technique dont l'efficacité est contestée, dont la fiabilité est limitée et dont les conséquences éthiques et sociétales sont abyssales. La véritable question n'est donc pas « pourquoi pas en France ?» La vraie question, c'est « est-ce vraiment ce dont nous voulons pour notre société ?» Merci de votre attention et au mois prochain.
Retrouvez toute l'actualité d'Alliance Vita sur le site alliancevita.org.